RMC.
After Saint-Étienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.
Chers supporters de Lilian Compan et d'Alain Moisan, bienvenue dans le podcast After Saint-Étienne. Comme toutes les semaines, 15 minutes de débat consacré à l'actu des Verts. Avec aujourd'hui Daniel Riolo. Daniel, bonjour.
Salut à tous.
Et avec Timothée Mémon, qui suit l'actu de Saint-Étienne, évidemment, au quotidien. Timothée, bonjour.
Ah, salut Gilbert, salut Daniel, salut à tous.
Évaluation de l'after, après le match face à Reims, comme de coutume, et puis deux débats à suivre. Le club a-t-il bien géré le cas Ruffier ? C'était il y a quelques jours, évidemment, tout le monde a suivi ça. Et puis finalement, puis elle est-il l'homme de la situation ? Car on se rend compte qu'évidemment, l'effectif ne lui correspond sans doute pas. On va rentrer dans les détails dans quelques instants. Dans le podcast After Saint-Étienne, c'est parti. Un petit toli après le match du week-end, si tant est que ce soit possible.
Non, je refuse.
Tu refuses, très bien. Timothée, peut-être que toi t'en as un ?
Bah, c'est un petit peu mon taulier récurrent, et je trouve ça un petit peu inquiétant, mais c'est Johan Cabaye. Je trouve que c'est encore une fois
le seul. Ça fait pas longtemps qu'il est récurrent.
À peu près. Ça fait quand même depuis le début du mois de janvier que c'est à peu près le seul joueur qui surnage un petit peu, qui fait les efforts, qui se montre sérieux, je trouve, dans ses prestations. Voilà, s'il faut en sortir un seul dans ce naufrage collectif actuel et général de l'AS Saint-Etienne, je trouve que c'est celui-là.
Et dis-moi Timothée, j'ai besoin que tu révèles un petit secret. Où va se nicher ta passion pour aller au bout de 90 minutes de ton équipe ?
Tu sais, ça c'est un truc, c'est pas de moi, je vais prendre un petit peu d'intelligence congelée de quelqu'un d'autre en citant cette phrase qui est dans un film de Ken Loach. Dans sa vie, on peut changer de femme, on peut changer de religion, on peut changer d'à peu près
pas
tout,
d'équipe de
mais on
foot,
ne change
okay.
jamais le club que l'on supporte.
Je te dis pas d'aller en regarder un autre. Je te demande comment tu fais pour ne pas lâcher, je veux dire bah, je reviendrai quand ce sera digne de moi, quoi.
Je te dis pas d'aller supporter une autre équipe,
hein, tu comprends ma question.
C'est genre une
fâcherie, tu vois, même on peut aimer, être fâché, détourner le regard et dire bah, je reviendrai quand ça arrêtera de me manquer de respect.
Ouais, mais il y a quelque chose de viscéral. Je te cache pas que tu l'as dit, c'est mon club, tu le sais. Et je suis fou de ce club, et là où je suis fou au sens premier du terme, fou, c'est qu'à chaque fois j'y crois. C'est qu'à chaque fois je me dis, allez, hier quand j'ai commencé à regarder le match, je me suis dit, allez, c'est voilà, on fait une bonne prestation,
on va
faire quelque chose dans le derby, ça va être bien, on va aller chercher. Alors oui, si je regarde objectivement, la raison me dit, il n'y a pas de raison, il n'y a rien qui va mieux, pire en coulisses, c'est de pire en pire. Mais il y a quelque chose d'irrationnel, mais je pense que c'est la beauté d'être supporter, d'être amoureux tout simplement. Voilà, pour le supporter comme pour le reste.
Moi j'ai un taulier.
Explication acceptée.
Moi je mets Jesse Moulin. Bah ouais. Et là, mais je veux dire pourquoi ? Parce que ce type-là, finalement, il est toujours là quand on a besoin de lui, il fait pas de bruit.
En plus, surtout vu la situation, ça devait pas être très simple pour lui. Hein.
Non, mais en plus, alors, c'est pas le meilleur gardien de Ligue 1, hein, loin de là, on l'a vu faire des boulettes encore récemment. Mais enfin bon, voilà, ce type-là, pour sa fidélité et son bon sens permanent, il mérite au moins d'être taulier aujourd'hui. Voilà.
Et il a pas encaissé le moindre but en Ligue 1 dans le jeu cette saison. C'est pas mal. Trois matchs, il a gagné le derby.
C'est pas comme s'il avait fait 25 matchs en même temps.
Ouais, mais il a gagné le derby, tu vois. C'est des choses, les supporters s'en souviennent.
T'as un boulet, Timothée ?
J'en ai 10. Mais si je dois en choisir un plus que les autres, ce serait Riyad Boudbouz. Je continue à m'étonner de ses titularisations récurrentes. Il perd énormément de ballons, il fait semblant de défendre. Son positionnement est brouillon.
Il faut arrêter de lui faire tirer les corners, hein, parce que les corners en quatrième poteau, au bout d'un moment.
Surtout qu'à la base, c'est quand même un joueur qui a du ballon.
Qui est censé savoir tirer les coups de pied arrêtés.
Ouais, enfin, qui a de la technique. Donc je pense que de toute façon, ce joueur a toujours été une énorme escroquerie.
Ah, carrément.
Pourtant, je te répète, c'est un mec qui sait jouer au foot, hein, qui a de la technique, mais pour jouer en bas d'un immeuble ou sur un terrain vague. Mais dans le football professionnel, c'est une catastrophe. Et beaucoup trop de gens ont misé sur lui, sachant qu'il n'a pas la bonne attitude, que ce n'est pas un bon professionnel, qu'il n'a jamais rien apporté dans des équipes, à part peut-être sur des séries de 3-4 matchs, mais en tout cas, rien qui ressemble à du professionnalisme de haut niveau. Voilà. Et Saint-Étienne a fait à nouveau l'erreur, comme d'autres avant, ce n'est pas les seuls à avoir fait cette erreur, d'aller prendre un mec comme ça. Dès qu'il a signé, j'avais dit « c'est une énorme connerie ». Mais les gens continuent. Mais bon, Saint-Etienne n'a pas fait d'erreur qu'avec lui dans le recrutement. Et là, visiblement, bon, bah, je ne sais pas, Puel s'est peut-être dit « je vais y arriver, je vais faire quelque chose de ce mec-là ». Bon, bah, visiblement, il ne fait rien d'eux, quoi. Normal.
Moi, je mets Diony, moi. Il y a ouais, bon, Marc, on va dire que tu...
Diony, mais
bon, vu ce que t'as mis à bout de bouche, je vais pas te demander un autre boulet.
Mais Diony, qu'est-ce que tu veux mettre, Diony? Qu'est-ce que tu veux faire avec Diony? Mais Diony, c'est
parce que Diony, il est avançant, c'est le transfert le plus cher de l'histoire de ce club, et il est pas capable d'en foutre un.
Mais Diony, je pense que c'est à son corps défendant que c'est une escroquerie, parce que lui, il a pas demandé à ce qu'on mette 9 millions sur sa tronche. S'il y a des ignorants qui ont été capables de faire ça, c'est eux. Les escrocs, les agents qu'on croquait au passage, et le pauvre Diony, lui, il subit le fait qu'on croit que c'est un bon joueur de foot, alors que c'est un joueur de Ligue 2. Voilà. Si en France, un mec qui met dans un duo d'attaque à Dijon à l'époque, merde, comment s'appelait l'autre avec lui, là ?
Tavares ?
Voilà. Les mecs ont cru que c'était lui le bon joueur, alors que c'était l'autre, et qu'à Saint-Etienne, il y a des gens, donc c'est le métier, avec un œil, tu vois, pour dire... On va mettre l'oseille sur lui parce que lui, c'est un bon attaquant et on casse la tirelire parce que Saint-Etienne n'avait jamais mis autant de blé sur un mec et on prend lui. Mais se dire, mais les gens qui ont fait ça, mais eux, c'est des coupables. Est-ce qu'ils sont encore au club, Timothée, les mecs qui ont cru que c'était un bon joueur?
Bah non, ils viennent de.
Jeudi.
Bah oui, il y en a un qui vient
plus
de se faire dégager.
Jeudi dernier, ouais.
C'est lui, il faut entier, c'est lui qui avait fait venir Diony, hein.
Ouais, absolument.
Ah, c'est Ventier directement. Je savais pas que c'était Ventier directement.
La cellule de recrutement, oui, qui a toujours été.
Ces gens-là, en plus, Ventier, c'était un agent avant.
Donc, bien sûr.
Franchement, ça me rassurerait. Je serais rassuré de savoir que les gens qui ont décidé pour Diony aient croqué au passage. Si des gens ont croqué, là, je dis ouf. Parce que si personne a croqué et que tout a été fait nickel. Ah là, je me dis, c'est au-delà de l'incompétence.
En même temps,
c'est encore plus grave parce que là, c'est
de
l'incompétence.
Il fait la saison de sa vie, Diony. Bon,
mais même
derrière,
quand il fait la saison de sa vie, tu vois bien qu'il a pas de pied. Tu vois bien.
Écoute, un mec qui marque plus de 10 buts dans la saison.
Même à l'époque, son entraîneur Olivier Dalloglio disait que c'est un joueur qui prenait énormément de carburant à l'entraîneur qu'il était. Voilà, c'est. Saint-Etienne l'a recruté un peu les yeux fermés, il tirait les pénaltys sur la deuxième partie de saison, il marque je crois 9 buts en 6 mois. Mais oui, c'est une erreur énorme, hein, mais Saint-Etienne va la payer.
C'est une escroquerie à son corps défendant. Il a combien de contrats encore ?
Un an et demi, enfin la fin de cette année.
Ouais, de toute façon, personne ne le recrutera, personne ne viendra le chercher. Mais moi, tous ces mecs-là, je suis curieux, en fin de contrat, je veux savoir où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que devient leur vie.
Bah, écoute, on verra, hein, pour Diony en l'occurrence. Tiens, passons à notre débat ruffier, après cette évaluation, on va dire, au lance-flamme. Parce que c'est un peu au lance-flamme quand même.
Mais en quoi c'est tout au lance-flamme?
Bah parce que là, ce que t'as mis un coup de bouse là.
Bah okay, non, dis-moi ce qui n'est pas juste.
Non mais j'ai envie qu'on passe à la suite.
Non. Mais dis-moi ce qui n'est pas juste dans ce
non,
que j'ai dit.
Ce que tu as mis à bout de bouse est exagéré. Moi je pense que bout de bouse, c'est un joueur correct de Ligue 1. Voilà, là il est dans une mauvaise passe. Bout de bouse, il a fait des bons trucs. Bah quand tu étais à Bastia, je me souviens par exemple. Voilà, c'est un mec qui.
Il ne fait que des mauvaises passes.
Bon, d'accord. Et passons au dossier suivant. On va pas faire un quart d'heure sur Boutbouze. Dossier suivant. Saint-Etienne a-t-il bien géré le cas Ruffier ? Donc, tout le monde sait ce qui s'est passé la semaine dernière. Même si, bon, quand on rentre un peu dans les détails, d'après les infos qu'on a, c'est qu'il y a quand même eu, on va dire, un manque de respect assez patent de Ruffier envers Puel lors d'un entraînement. Hein. Voilà, qui est un peu le déclencheur.
Ça mérite peut-être d'être rappelé rapidement. C'est lors d'une mise en place, le coach Claude Puel a mis en place une équipe de titulaires, mais il s'intéressait au système de jeu. Donc finalement, la présence de quelqu'un dans la cage, que ce soit Ruffier, Bajic ou Moulin, n'importait pas beaucoup. Stéphane Ruffier s'est approché pour lui demander s'il devait aller avec l'équipe des titulaires ou ailleurs. Claude Puel lui a dit que grosso modo c'était pas le sujet de l'exercice, et Ruffier a dit dans ces conditions, moi l'exercice je le fais pas. Bon, Puel s'est un peu cabré, lui a dit à ce moment-là, assieds-toi à côté, on va mettre Bajic d'un côté et Moulin de l'autre, et puis voilà. Et s'en est suivi cette fameuse conversation où Claude Puel a dit à Stéphane Ruffier qu'il ne jouerait pas le match suivant sans donner plus de raisons que cela. Bref, le manque de tact a été bien partagé entre les deux hommes.
Ah, tu penses ?
Oui.
D'accord,
alors,
très bien.
Mais alors,
bon, après il y a eu l'agent qui est arrivé, il y a le club qui a répondu.
Il y a l'agent, mais après ça dépasse le cadre du groupe, ça dépasse presque le cadre du football. J'ai envie de dire ce que dit Patrick Gland, ça lui appartient.
Voilà,
quel agent de Ruffier, ça lui appartient. Le communiqué de l'AS Saint-Etienne pour remettre l'institution au-dessus de tout ça, ils sont dans leur rôle. C'est même pas ça qui est extrêmement intéressant et surtout qui va peser sur la vie du groupe dans les semaines à venir. Par contre, et là rentrons dans le débat que tu voulais faire, Gilbert, c'est la gestion des cadres par Claude Puel. Il y a 3 semaines de ça, Claude Puel rentre dans le vestiaire. C'est une indiscrétion que j'ai eue, rentre dans le vestiaire. Il dit réunion de cadre dans mon bureau, Stéphane Ruffier, Jesse Moulin, Loïc Perrin, Johan Cabaye, Mathieu Debuchy et Denis Bouanga. Résultat, Romain Amouma, meilleur buteur du club en activité, qui est là depuis 10 ans, baisse le nez dans son sac, le prend et s'en va forcément. Il y a une gestion des cadres qui est faite pour le coup au lance-flammes par Claude Puel et qui ne fonctionne pas du tout pour le moment dans le vestiaire stéphanois avec les joueurs, avec le staff et Claude Puel s'est un petit peu isolé, retranché derrière ses idées. Je doute pas une seconde qu'il a une vision à long terme, on parle d'un bâtisseur et tout ça, mais il faut quand même savoir aussi manager, mettre de l'eau dans son vin, ménager les égos, et j'ai l'impression que voilà, buté derrière le mur de ses idées, Claude Puel fait ça à la hache.
Daniel, je comprends ce que dit Timothée et je suis assez d'accord avec lui. Le grand problème, c'est que il doit faire du management. Enfin, il a le cul entre deux chaises, mais ça, on le dit un petit peu depuis le début. Année de transition avant de pouvoir virer les vieux qui ne sont pas dans son idée, dans son projet à lui. Et en attendant de pouvoir le faire, composer. Le problème, c'est qu'il compose mal et qu'en fait, il doit faire du management avec des pipes, avec des mecs qui ne répondent pas aux attentes, avec des mecs qui ont mis le club dans la situation sportive dans laquelle il se trouve. Mais malheureusement, il ne peut pas composer avec d'autres puisque c'est eux qui sont là. Donc, je ne sais pas si en termes de management, il n'aurait pas fallu qu'il, en gros, continue de les considérer comme importants, quitte finalement, parce qu'on parle de ça, à être hypocrite et à dire « Ok, je vous donne l'importance que vous êtes censé avoir en attendant de vous virer ensuite. » Et ça, j'ai l'impression qu'il n'arrive pas à le faire. Et que oui, il se braque face à des attitudes, il se brasse face à des mecs qui ne sont pas à leur niveau, il se brasse, en gros, on va dire, face à des mecs qui se comportent comme des pipes. Et voilà, et c'est la même chose avec Ruffier, au fond. C'est la même chose. Ruffier est nettement moins bon cette année. C'est un mec qui, au cours de toutes ces années passées à Saint-Etienne, s'est endormi, est devenu un baron, en plus un baron tout seul, avec son seul agent qui ne parle à personne, qui est mutique, qui bosse pour ses stats, qui bosse pour ses performances, qui limite veut qu'on joue bas en défense pour qu'il prenne le moins de buts possible pour pouvoir dire
que c'est un mec qui a été le meilleur joueur de Saint-Etienne pendant plusieurs saisons.
Bah exactement, c'est pas comme ça que je le dirais. Avec un autre gardien, Saint-Etienne aurait eu des résultats tout aussi bons ou moins bons. Moi, je dis qu'il a rien influencé. Pour moi, un gardien n'influence pas les performances d'une équipe. C'était attaquant,
ça milieux, nous amène à notre
collectif.
Dernier débat.
Lui, c'est juste un gardien et il a eu une importance au-delà de la normale à Saint-Etienne. Au-delà de la normale. Mais il se trouve que ces mecs-là sont là et que Puel n'arrive pas à composer avec eux.
Très vite, Timothée. Vas-y.
Très vite. Tu parles d'hypocrisie. Je pense que le management dans le football fait beaucoup, beaucoup appel à l'hypocrisie. Et si l'hypocrisie te permet de te garder en Ligue 1, je supplie Claude Puel de faire preuve d'un peu d'hypocrisie.
Bien sûr. Je comprends ce que tu dis. Ouais.
Puel, justement, il arrive après donc Gasset, Galtier, qui avait un management totalement différent du sien. Finalement, est-ce qu'il est l'homme de la situation aujourd'hui ? Parce que, en gros, tu as un gars qui a son style à lui et qui veut mettre en place son projet, comme on dit maintenant dans le foot, et puis tu as des joueurs qui ne correspondent pas à ça. Donc, c'est compliqué, on est dans une impasse, Timothée.
Oui, alors en fait, Claude Puel est peut-être l'homme de la situation, mais Claude Puel n'était pas l'homme d'une situation en cours de saison. Claude Puel, s'il a un projet, s'il veut construire, s'il veut bâtir, il veut le faire avec ses hommes. On le voit puisque ça tranche avec ceux qui étaient là avant lui, ça tranche et ça casse avec ceux qui étaient là avant lui. Et peut-être que Claude Puel aurait été l'homme de la situation à Saint-Etienne à condition de lui dire « Vous arriverez au mois de juin prochain, vous aurez les mains libres pour vendre les joueurs que vous voulez vendre, pour acheter les joueurs que vous voulez acheter, pour sortir de la réserve ceux que vous voulez sortir de la réserve. » Peut-être Peut-être. Voilà.
Mais est-ce que c'est pas le seul à Saint-Etienne, est-ce que c'est pas le seul à Saint-Etienne finalement à vouloir mettre du professionnalisme en ce moment?
Mais bien sûr qu'il va
apporter ça. Finalement, il peut pas parce que les mecs répondent pas, les mecs doivent partir, les présidents sont absents, le directeur sportif vient de se faire virer. Tout est beaucoup trop compliqué et lui, il arrive là, je dois reprendre en cours, mais je dois me séparer d'un tel, je dois faire... La situation, très franchement, je la trouve inextricable à Saint-Etienne. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre.
Le mot de la fin, c'est noté pour toi.
Les joueurs qui sont là, qui ont fait partie de l'effectif de Galtier puis de Gasset, sont des joueurs qui ont eu l'habitude d'être, je ne sais pas si ça se dit, paternés, en tout cas maternés par leur entraîneur. Et ils ont aujourd'hui une incompatibilité d'humeur avec... un homme qui
de
lui
fonctionnement
décide
même, pas que d'humeur,
seul,
de fonctionnement
bah de, oui. Voilà, qui lui décide seul, tranche dans le vif, parfois ça fait mal, et ils ne sont pas habitués à ça. Ça crée un énorme choc, comme je le dis, avec le groupe professionnel, mais aussi avec une partie du staff.
Merci Timothée. Et bien sûr, tout ça, alors qu'il y a le derby qui arrive à Lyon dans quelques jours. Hein.
Dix jours extrêmement importants, le derby et la réception de Rennes en demi-finale de Coupe de France. Comme j'ai coutume de le dire là depuis quelques jours sur cette antenne, il y aura un envahissement de pelouse après le match contre Rennes en cas de victoire, mais peut-être aussi en cas de défaite.
Merci Timothée, merci Daniel. Prochain podcast à Port Saint-Etienne la semaine prochaine, bien sûr.
RMC.
After Saint-Etienne.
Le podcast
Gilbert Bribois.